Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24. Pierre Firsion.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mardi Politique. Notre invité ce soir, Florian Philippot, vice-président du Front National. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Dans la seconde partie de l'émission, nous reviendrons sur le 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, commémoré ce 27 janvier, cérémonie qui intervient dans un contexte particulier avec la montée en Europe de l'antisémitisme et du racisme. Nous évoquerons également les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le terrorisme. Avant cela, gros plan sur la victoire du parti d'extrême-gauche Syriza aux élections législatives grecques. Au menu également, la politique française avec l'examen de la loi Macron par l'Assemblée nationale ainsi que les élections départementales et régionales à venir. À mes côtés ce soir pour vous interroger, Roselyne Fèvre de France 24, bonsoir Roselyne.
Bonsoir Pierre.
Et Christophe Forcari du quotidien Libération, bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Allez, débutons cette émission par la victoire dimanche du parti d'extrême-gauche Syriza aux élections législatives grecques. Quel impact ce succès aura-t-il en Europe? Peut-il favoriser, Florian Philippot, une réorientation de la politique économique de la zone euro?
Je l'aimerais, je l'espère en tout cas. Je pense que c'est un impact important. En tout cas, et c'est l'analyse qu'avait fait le Front National, cela permet d'ouvrir et de faire prospérer certains débats extrêmement importants, essentiels. Je vois, je me réjouis que depuis la campagne grecque, mais surtout depuis l'élection bien sûr de Syriza, on parle beaucoup des politiques de l'Union Européenne, on parle beaucoup d'austérité, on parle beaucoup d'euros, on parle beaucoup de la question de la dette, et on parle beaucoup d'indépendance nationale, puisque dans le discours de Syriza, je l'ai écouté attentivement, eux-mêmes parlent beaucoup d'indépendance et de souveraineté, qui est une notion extrêmement importante, bien évidemment. Donc je pense que ça va faire avancer le débat, et tout ce qui fait avancer le débat, à mon avis, fait avancer la cause des peuples. Et la cause des peuples, ça sera la grande cause de 2015 en Europe, parce que je pense que ce système-là, oligarchique, antidémocratique, anti-économique et antisocial, ne peut pas durer bien longtemps.
On sait que Syriza est un parti anti-austérité. Alexis Tsipras a décidé, le nouveau chef du gouvernement, a décidé de s'allier avec un parti de droite souverainiste, les Grecs indépendants, pour avoir la majorité au Parlement. C'est un parti qui est aussi connu pour ses positions anti-austérité et pour ses positions anti-immigration. C'est une alliance assez surprenante et qui doit plutôt vous satisfaire.
Oui, je pense que ça surprendra ceux qui ont encore leurs grosses vieilles lunettes des années 70-80. Il y a hérité de la guerre froide, gauche-droite, on ne comprend plus rien. Je pense que ça surprend Mélenchon, effectivement. Ça doit surprendre les Verts aussi, ils l'ont dit d'ailleurs en France. Certains sont déboussolés. Non, nous, ça ne nous surprend pas. Ça prouve que le clivage gauche-droite est totalement inopérant, notamment sur les enjeux européens, et que le clivage est ailleurs. Il est entre patriotes, souverainistes et ceux qui sont complètement soumis à l'Union européenne, les euro-gaga.
Donc ça voudrait dire que vous pourriez par exemple faire alliance demain avec Jean-Luc Mélenchon, par exemple ?
Non, pas avec Jean-Luc Mélenchon, certainement pas, ni avec même un parti comme le sien. Mais en revanche, faire venir des gens dans le cadre par exemple d'un grand rassemblement de patriotes de gauche et de droite, comme le Rassemblement Bleu Marine, des gens qui viennent y compris du Front de Gauche, oui bien sûr, ça a déjà été le cas d'ailleurs, on a d'anciens candidats locaux qui viennent déjà du Front de Gauche, du PS, mais aussi bien sûr aussi du Centre, de l'UMP. Bref, des gens qui veulent construire ensemble quelque chose. Je pense qu'il faut arrêter d'être sectaire et il faut arrêter de cloisonner le débat entre gauche et droite, parce qu'on se rend compte par exemple en France que gauche et droite font strictement la même politique. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur les vrais clivages. Là on est sur les clivages qui arrangent les partis qui en vivent, c'est-à-dire le PS et l'UMP, qui ont besoin de cette fable, de ce mythe de la gauche et de la droite. Mais en réalité, quand on creuse, on se rend compte que ça ne représente plus rien.
Roselyne Fèvre.
Vous parliez des vieilles lunettes il y a quelques instants, mais est-ce que justement la recette de ce parti-là, c'est des vieilles lunettes, puisque c'est on laisse filer la dette, dans le fond, allez, on laisse filer tout ce qui n'a pas marché pendant 30 ans, ce qui a creusé le déficit, et puis on fait de la relance. Et c'est pas des vieilles lunettes, ça? Bien sûr, par rapport à l'austérité, il y a peut-être un juste milieu.
Oui, déjà, je ne partage pas tout le programme de Syriza. On n'est pas allié avec eux et on n'envisage pas de faire une alliance.
Ils ne veulent pas sortir de l'Union Européenne ni de l'euro.
C'est vrai.
Ils ont changé là-dessus.
C'est vrai, même si, là, la question centrale, et ce serait intéressant de regarder, s'ils appliquent leur programme, notamment sur la dette, comme vous disiez, mais aussi sur les politiques économiques et sociales, ça ne peut pas se faire dans le cadre de l'euro. Donc on verra, soit ils feront l'inverse de leur programme et très vite ils trahiront, mais manifestement vu les nominations qu'ils ont fait aujourd'hui, et notamment à la dette, ils ont nommé quelqu'un de dur, donc bon, peut-être qu'ils vont tenter en tout cas d'essayer de respecter leur programme. S'ils respectent leur programme, ça ne pourra pas se faire dans le cadre de l'euro, parce qu'on ne peut pas séparer la question de l'austérité de celle de l'euro. L'austérité se fait au nom de l'euro. C'est l'économie au service de la monnaie en Europe. C'est ça le drame. Normalement, ça devrait être l'inverse. Normalement, la monnaie, c'est un instrument. Ça doit être la monnaie au service de l'économie. Or, en Europe et dans la zone euro, l'euro, la monnaie est tellement totémisée et est tellement considérée comme un quasi-dieu qu'on met tout au service, y compris les peuples, au service de la monnaie. Je crois qu'il faut raisonner à l'inverse et ça me semble moderne, oui. Ce qui me semble moderne, c'est d'appliquer des politiques de progrès social, de réindustrialisation, d'aller chercher ce qui marche dans le monde et non pas d'appliquer indéfiniment la vieille politique européenne, c'est-à-dire l'austérité, le refus du protectionnisme, le refus du patriotisme économique. Ça me paraît très archaïque.
Christophe Ocari.
Est-ce que vous n'êtes pas allé un peu loin, enfin, est-ce que le Front National n'est pas allé un peu loin en déclarant qu'il souhaitait la victoire de Syriza, alors que c'est un parti qui, sur l'immigration, vous est totalement opposé, qui, sur l'Union européenne, ne prône pas du tout la sortie de l'Union, et tout ça au nom de l'adage, les ennemis de mes ennemis deviennent tout d'un coup mes amis de l'espace d'une élection.
C'est pas vraiment ce raisonnement-là qui a guidé notre raisonnement. Je pense que, faites simplement imaginer 2 secondes. Dimanche soir, un autre parti que Syriza l'emporte en Grèce. C'est la continuité, plus personne n'en parle. On referme le couvercle et il n'y a plus aucun débat. Or, on l'a vu, avec la victoire de Syriza, il y a des débats. Il y a des débats intéressants sur les politiques européennes et c'est le pari que nous avions fait et nous avons eu raison.
Mais donc voilà. Vous souhaitez la victoire du parti équivalent en Espagne aux prochaines élections?
Mais je pense que monte partout en Europe, dans toutes les nations de l'Union européenne et de la zone euro, des mouvements, alors ça dépend, chacun a sa tradition, ça peut être des mouvements qui viennent de la gauche, des mouvements qui viennent de la droite, des mouvements qui sont au-dessus de la gauche et de la droite, selon les pays, peu importe, selon les enjeux nationaux, mais il monte des mouvements qui correspondent à l'alternative. En France, c'est le Front National et le Rassemblement Bleu Marine. Incontestablement, vu les résultats aux européennes, nous sommes arrivés en tête avec 25% des voix. Effectivement, en Espagne, c'est Podemos. En Grèce, c'est Syriza. Au Royaume-Uni, ça sera l'UKIP. En Allemagne, de plus en plus, c'est l'AFD, l'alternative pour l'Allemagne. C'est varié. Ça peut être le FPÖ en Autriche. En tout cas, il est en train de se passer quelque chose en Europe. Moi, je crois qu'on assiste quasiment à une sorte de printemps des peuples européens. Et que 2015 peut être une grande année de ce point de vue-là, c'est-à-dire vraiment l'émergence d'une véritable alternative populaire par rapport à un système qui ne fonctionne plus, qui produit du chômage de masse. On le voit encore aujourd'hui. Ce soir, on apprend que le chômage a encore fortement augmenté en France au mois de décembre 2014. Il faut se dire, on peut pas continuer toujours avec les mêmes politiques, les mêmes vieilles recettes qui ne fonctionnent pas.
Alors Syriza, on le disait, menace de ne pas rembourser la dette du pays, hein, une dette évaluée à 320 milliards d'euros, ce qui représente environ 177% du PIB. Le non-remboursement de la dette, une hypothèse dont ne veut pas entendre parler l'ancien Premier ministre français, François Fillon. Il était ce mardi l'invité de nos confrères de France Info.
C'est pas l'Europe qui est à l'origine de la dette grecque. Ce qui est à l'origine de la dette grecque, c'est une gestion calamiteuse de la Grèce pendant des années, et c'est des comptes qui étaient des comptes truqués. Donc aujourd'hui, la Grèce, face à cette situation, peut choisir de changer de politique économique, elle peut choisir des priorités différentes dans sa politique nationale, mais elle peut pas s'asseoir sur sa dette. Si le gouvernement grec pense qu'il peut rester dans l'euro et ne pas payer ce qu'il doit à ses créanciers, il va au-devant de sévères désillusions. Et c'est surtout le peuple grec qui va au-devant de sévères désillusions.
La Grèce ne peut pas s'asseoir sur sa dette, dit François Fillon. Vous êtes d'accord, Florent Philippot?
Mais François Fillon était Premier ministre, je crois, en septembre 2011, quand l'Assemblée nationale, le Parlement, a voté le plan de renflouement de la Grèce avec l'argent français. Et pendant ce temps-là, au même moment, le 6 septembre, Marine Le Pen et des militants du Front National étaient symboliquement devant l'Assemblée nationale à jeter des faux billets dans la Seine, des faux billets de 500 euros pour expliquer comment on gâchait et on jetait par les fenêtres l'argent des Français. Voilà, donc que ce soit Syriza qui gagne ou un autre parti grec qui l'emporte, de toute façon, la Grèce ne remboursera pas. On est à 177% du PIB de dette. Historiquement, on n'a jamais vu de remboursement dans ces conditions.
La Grèce ne remboursera pas. Et la BCE, qui sont les créanciers qui doivent être en priorité remboursés.
La Grèce.
Et qui ne vont pas, eux, s'asseoir sur,
sur les remboursements. De fait, alors on étalera sur 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais de fait, la Grèce ne remboursera pas sa dette. Mais nous l'avions dit dès le départ. Et ça, ce n'est pas une question de Syriza ou pas Syriza. C'était l'abrutissement de ces politiques-là. Le côté absurde de ces politiques qui ont consisté à aller renflouer en permanence l'euro, Parce que c'était ça qu'on allait sauver en réalité en Grèce. C'était pas les Grecs. Les Grecs, ils ont pas vu la couleur de cet argent-là. Les Grecs, ils ont continué de souffrir. Le chômage a continué d'exploser. Et les maladies aussi. Parce que le système de santé a été affaibli par l'austérité de manière inadmissible. En revanche, on a renfloué les banques, on a renfloué la monnaie unique. On l'a fait en Grèce, on l'a fait aussi au Portugal, en Irlande, en Espagne, etc. sans aucun résultat. Bon. Bien, cet argent-là, on le reverra plus. Mais la faute aux responsables politiques français qui ont voté cela, notamment Monsieur Fillon, notamment l'UMP, le Parti Socialiste.
Mais à bien vous entendre, là, quelle est votre stratégie, en fait? Vous espérez que la Grèce ne parvienne pas, ne veuille pas, n'accepte pas de rembourser ses dettes pour, à terme, quitter la zone euro? C'est ce que vous espérez?
Non, notre scénario premier, c'est que un jour, les dirigeants européens se ressaisissent et se disent, manifestement ça ne fonctionne pas, on s'est trompé, donc on va se mettre tous autour d'une table et puis on va faire le bilan de ce qui ne fonctionne pas. Et puis on va se rendre compte très vite que ce qui ne fonctionne pas notamment, c'est la monnaie, c'est l'euro. Mais il n'y a pas que ça aussi, il y a l'ouverture totale des frontières qui ne fonctionne pas par rapport à la concurrence déloyale. C'est un cas unique au monde. Il y a le refus du patriotisme économique aussi qui ne fonctionne pas. Cas unique au monde également, parce que c'est interdit par les traités européens. Et que ces dirigeants, se ressaisissant, se disent, on va organiser la dissolution concertée de l'euro. Voilà, ça c'est le scénario idéal. Et je pense que plus il y aura de débats, plus on forcera ce scénario. Mais si les dirigeants européens actuels ne le veulent pas, parce qu'ils sont trop englués dans leur idéologie...
Je pense pas que ça soit dans la ligne d'horizon de Mme Merkel.
Mais oui, mais c'est ça le problème d'une idéologie. C'est qu'une idéologie vous met des œillères et vous ne pouvez plus rien voir. Vous êtes forcément englués dans vos certitudes et vous faites toujours ce que vous avez appris à faire les années précédentes et les décennies précédentes. Donc effectivement, ils vont peut-être droit dans le mur. Mais moi, je veux pas. Si eux vont droit dans le mur, c'est leur problème. Mais je veux pas qu'ils entraînent les peuples avec eux. Donc ça passera par des changements de majorité. Nous avons cette année des élections en Espagne, effectivement. Je pense qu'il va y avoir aussi un changement profond en Espagne. Et en France, ça va venir. Vous allez voir au départemental, puis au régional, la montée très forte du Front National, du Rassemblement Bleu Marine. Et je pense qu'on peut arriver à la fin de cette année, 2015, où le Parti Socialiste, qui est le parti au pouvoir actuellement en France, aura quasiment disparu. Mais c'est ce qui est arrivé au PASOK en Grèce, qui a fini à 4% aux dernières élections, qui était le Parti Socialiste.
Alors on va reparler des élections un petit peu plus tard. Avant la victoire de Syriza dimanche, la Banque Centrale Européenne avait frappé fort la semaine dernière en faisant marcher la planche à billets. 1100 milliards d'euros de rachat de dettes sont ainsi programmés d'ici à septembre 2016. C'est une décision qui va dans le bon sens, selon vous?
Déjà, là aussi, donc c'est un grand plan pour sauver l'euro. Moi, je pensais qu'il était sorti d'affaire. Donc, on voit bien qu'il y a des contradictions. Non, il n'était pas sorti d'affaire. Donc, nouveau plan pour sauver l'euro. Décidément.
C'est pour lutter contre la déflation.
Oui, mais la déflation est liée au système monétaire. Bon, décidément, il y a un vrai problème avec cette monnaie. Je pense que ça sera sans effet sur l'économie réelle. Ça va aider les marchés. Ça, c'est sûr, ils sont ravis. Ça aidera les banques et les marchés. C'est la même chose. Et les banques, les marchés, c'est-à-dire.
Elles vont peut-être plus prêter quand même.
Alors, le problème, c'est que les taux étaient déjà très très bas. Donc on voit pas vraiment pourquoi elle prêterait davantage. Et surtout, les acteurs économiques sont très endettés. Puis il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de carnet de commandes. Voilà, vous savez ce qu'on dit, on ne fait pas boire un âne qui a pas soif, quoi. Et c'est un peu le problème de l'économie européenne. Donc moi, je pense que c'est pas la priorité aujourd'hui. La priorité aujourd'hui, ça serait de se mettre autour de cette table, comme je vous l'ai dit, sur les grandes questions des frontières, du protectionnisme, de la monnaie et du patriotisme économique. Ça, ce serait une vraie réforme structurelle qui changerait tout et qui pourrait réindustrialiser le continent et notamment la France. En revanche, moi, ce que j'ai constaté et ce que j'ai remarqué avec d'autres économistes, bien évidemment, dans ce plan de 1200 milliards d'euros, c'est que seulement 20% de ce plan est mutualisé et porté par la Banque Centrale Européenne. 80% est porté par les banques centrales nationales au profit de leur propre pays, de leur propre dette nationale. C'était une exigence de l'Allemagne. Je pense que c'est intéressant de regarder cela parce que c'est une forme de renationalisation, sans le dire, de la politique monétaire. Et ce qui pourrait démontrer que on commence à vouloir larguer l'euro, se rendant compte que c'est un boulet trop lourd à porter.
Florian Philippot, vice-président du Front National, est l'invité ce soir de Mardi Politique sur RFI. Venons-en maintenant à la politique économique en France, avec d'abord les chiffres du chômage pour le mois de décembre qui ont été annoncés ce soir. Légère hausse de 0,2% sur l'année 2014. Le chômage a en revanche augmenté de 5,7%, près de 190 000 chômeurs de plus sur 12 mois. Votre réaction?
Les mois se suivent et malheureusement se ressemblent. Et 2015 sera pareil que 2014, si on continue les mêmes politiques. Vous dites effectivement 8100 sur la catégorie A, mais si on prend catégorie A, B et C, qui pour moi est le vrai chiffre du chômage, on arrive avec plus 41 900 en un mois. Au mois de décembre, c'est absolument considérable. Et l'UNEDIC a déjà annoncé qu'il y aurait 100 000 chômeurs au moins supplémentaires pour, en France pour cette année 2015. Donc, c'est lié à nos sujets précédents. Il faut qu'on ait cette grande réflexion sur la politique industrielle et en même temps qu'on aide les vrais créateurs d'emplois qui sont les PME, les PMI, les petites entreprises, les artisans qui, eux, créent l'emploi aujourd'hui en France et qui sont victimes aussi, au-delà de tout ce que j'ai dit, d'une injustice fiscale terrible parce que eux payent énormément d'impôts et alors que pendant ce temps-là, les grandes entreprises du CAC 40 n'en payent quasiment pas. Et c'est pourtant ce qu'avait prévu normalement le président Hollande. Il nous avait dit je ferai la justice fiscale, je ferai l'impôt sur les sociétés progressives. Il ne l'a pas fait, il faut qu'il le fasse, c'est aussi dans le programme du Front National.
Est-ce que la loi Macron, qui est présentée depuis hier au Parlement, peut permettre de relancer la croissance et l'emploi? C'est le pari un petit peu du gouvernement. Alors vous avez vu ce texte qui tente de libéraliser un petit peu plusieurs secteurs d'activité, notamment généraliser un petit peu le travail le dimanche. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est une originalité folle, ce texte. C'est tous les fonds de tiroir de Bruxelles, tout ce que vous trouvez dans les rapports de la Commission depuis 20 ans. Bon, et repris par le MEDEF, c'est vrai, des privatisations, des réglementations au profit des gros contre les indépendants, le travail le dimanche, à l'anglo-saxonne, à l'américaine. Bon, ça créera, je crois que l'OCDE a dit que ça créerait 0,08% de croissance, 0,08%. Bon, donc c'est tout à fait négligeable.
Il n'y a aucune mesure qui, dans toutes ces mesures qui sont annoncées, le travail le dimanche, la libéralisation du marché des autocars,
non, les professions réglementées. Non, ce sont soit des mesurettes, et souvent ça va dans le mauvais sens. Je veux dire qu'un ministre de l'économie s'occupe aujourd'hui des autocars. Normalement, ça relève d'un président du Conseil général.
Vous voyez quoi, vous?
Mais j'essaierai de sauver les services publics parce que si l'objectif final c'est l'autocar pour les pauvres et le TGV pour les riches, parce que le prix du billet de train n'arrête pas d'augmenter, encore 2,6% le 1er janvier dernier, il faut le dire. Voilà, si on veut créer une société de classe, première classe, deuxième classe, et puis le retour des troisième classes, il faut le dire jusqu'au transport. Non, là, on est vraiment dans la politique ultralibérale de Bruxelles. Ouais. Alors que on n'aborde pas encore une fois les vrais enjeux. Je vous dis, un État qui a pas de levier, ni monétaire, ni budgétaire, ni ses frontières, qui peut pas aider ses petites entreprises, leur donner une priorité dans les marchés publics comme on le souhaite, qui peut même plus jouer sur l'impôt parce qu'il le contrôle pas totalement, c'est aussi entre les mains de Bruxelles, ne peut plus rien faire si ce n'est ces mesurettes qui vont dans le mauvais sens.
Il n'y a pas d'harmonie fiscale. Entre Bruxelles.
Non. Mais il y a déjà un encadrement.
Le marché du travail,
de la TVA,
c'est pas Bruxelles non plus. Marché du travail en France.
Quand vous avez des recommandations qui sont dites, redites, réécrites dans tous les rapports de la Commission européenne, si, au bout d'un moment, c'est Bruxelles. Parce que, il y a
Bruxelles,
une force de chantage
vraiment,
terrible.
C'est vraiment vade retro satanas pour
non,
vous.
Non, la responsabilité, ce sont les gouvernements français. Je rappelle que les Français.
C'est Bruxelles ou les gouvernements français?
Depuis
le début de cette émission, vous nous expliquez que c'est le monstre absolu, c'est le repoussoir absolu. D'ailleurs, là, c'est votre idéologie. Maintenant, si on est un peu concret, des chômeurs en plus, l'UNEDIC qui annonce des difficultés financières à venir, comment ces chômeurs vont-ils être assurés d'être indemnisés? Là, c'est pas Bruxelles qui est en cause. Et comment l'UNEDIC va-t-il pouvoir renflouer ses caisses? Voilà, ça c'est une question concrète d'un futur, si vous êtes appelé un jour à prendre les rênes du pouvoir, auquel vous devrez répondre.
Oui, mais on ne peut pas dissocier les questions. Enfin, évidemment que tous les régimes sociaux, tous les comptes sociaux sont en déficit et le seront de plus en plus parce qu'on ne crée pas de croissance. Et parce qu'on doit indemniser de plus en plus.
C'est de la faute de Bruxelles.
Non, attendez, on doit indemniser de plus en plus de chômeurs, évidemment, de retraités pauvres, etc., etc. Parce que, et à côté de ça, on ne crée pas de croissance et on fait de plus en plus de dettes. Donc nous, on veut sortir de ce cercle vicieux. On n'est pas là pour gérer la pénurie, on est là pour relancer la machine. C'est pour ça que je vous parle de toutes ces questions de fond. Sur la réindustrialisation, sur le soutien aux créateurs d'emplois, parce que il n'y a qu'en créant des richesses qu'on pourra effectivement permettre le financement de l'UNEDIC, le financement des retraites.
Vous semblez nous dire depuis une demi-heure.
Et quand je parle de Bruxelles, je juste
vous
dites
nous dire
le monstre.
Depuis une demi-heure maintenant. Finissons-en avec Bruxelles, avec l'euro, et tout ira mieux. Voilà, et on s'arrangera, et ça ira mieux. Est-ce que c'est pas un peu court comme
non, raisonnement? Je crois que ce que j'ai dit est plus compliqué. Je pense que nous, on propose une vraie alternative, en tout cas, qui est appliquée par d'autres pays. Je rappelle que 95% des pays du monde ont une monnaie nationale et ont des frontières qui contrôlent. Donc, ça n'a rien d'extraordinaire, ce que je propose. L'anomalie, c'est la zone euro.
Mais tout le monde ira mettre son argent, dans les banques.
Mais pourquoi voulez-vous?
En Allemagne.
Mais aujourd'hui, moi, en tout cas, ce que je constate, c'est que ça ne fonctionne pas. Ça fait 10 ans qu'on est en sous-croissance, depuis la création de l'euro. L'alternative, c'est soit on continue. Moi, je veux bien qu'on m'explique pourquoi demain ça ira mieux alors que ça ne fonctionne pas. Soit on tente autre chose. C'est ça, et c'est pas Bruxelles un monstre. Les Français ont dit non en 2005 par référendum à la Constitution européenne. Il faut juste les écouter et il faut que les gouvernements UMP et PS arrêtent d'être soumis. C'est tout.
On va se retrouver dans un petit peu plus de 3 minutes juste derrière le flash pour continuer Mardi Politique. À tout à l'heure.
Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24. Pierre Firsio.
La seconde partie de Mardi politique, notre invité ce soir, Florian Philippot, vice-président du Front National. Venons-en maintenant au moment marquant de cette journée, le 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, ce camp de la mort, symbole de la barbarie nazie. 1 100 000 personnes y ont été exterminées, dont une très grande majorité de juifs. Il faut inlassablement rappeler ce qu'a été la Shoah pour que le monde n'oublie pas ce qui s'est passé entre 39 et 45, Florian Philippot.
Oui, assurément, assurément, et je crois qu'il faut inlassablement d'ailleurs répéter notre histoire, parce que j'ai le sentiment, l'histoire des hommes en général, et notre histoire aussi nationale, parce que j'ai le sentiment que on connaît de moins en moins sa propre histoire. Or, une société qui ne connaît plus son histoire ne peut pas se projeter dans l'avenir, ne peut pas non seulement tirer les enseignements du passé, c'est ce que disait aujourd'hui le président de la République, mais tout simplement ne peut pas se projeter dans l'avenir. Et là, je crois qu'il y a un vrai devoir à la fois de mémoire, mais un devoir d'histoire, d'apprentissage de l'histoire qui doit se faire, ce qui suppose d'arrêter le grand massacre de l'histoire à l'école. Hein. C'est-à-dire qu'on a supprimé des programmes, beaucoup d'apprentissage de l'histoire, notamment de France, ces dernières années. Ça a commencé sous Nicolas Sarkozy, ça a continué sous François Hollande, et je pense que ça n'est pas une bonne chose. C'est très mauvais pour la construction nationale, pour la projection nationale.
Mais si on reste sur le cas de la Shoah, est-ce que selon vous, est-ce qu'elle est bien enseignée à l'école aujourd'hui?
Elle est enseignée, je crois qu'elle est prévue dans quelques, elle est prévue
dès l'école primaire,
en CM2 voilà, et en troisième, c'est ça, si je
en troisième et en première.
Oui. Moi, j'ai souvenir de l'avoir apprise à l'école de manière correcte, mais vous savez, c'est comme tout. Si vous maîtrisez déjà pas la langue, vous n'apprendrez pas l'histoire.
Donc,
faut pas se leurrer, vous n'apprendrez rien, ni la Shoah, ni le reste. Je veux dire, si vous arrivez en sixième, comme aujourd'hui, avec un quart quasiment des élèves qui maîtrisent pas la langue française, n'espérez pas qu'ils apprennent la Shoah ou autre chose. Ensuite, je crois qu'il faut revoir complètement l'école primaire, l'asseoir de nouveau sur ses enseignements fondamentaux, notamment l'apprentissage du français. On a perdu 200 heures de français par an depuis les années 70 à l'école primaire. Là, je pense que, il y a quelque chose à faire urgemment.
Christophe Ocari.
Comme le dirait un de vos collègues du Front National, est-ce que vous pensez-vous que cet antisémitisme est importé? Que c'est les populations immigrées aujourd'hui qui traduisent dans la société française les effets du conflit israélo-palestinien et qui génèrent cet antisémitisme?
Je pense que nous sommes dans une société qui est de plus en plus multiculturelle. Hein, du fait de l'immigration massive, anarchique, et alliée au communautarisme, qui s'est organisé, qui a été, en plus, impulsé par les politiques d'État, qui ont renoncé à l'assimilation républicaine. Et cette société multiculturelle, elle est multiconflictuelle. Alors, ça se traduit par une montée des tensions. Je crois que c'est une montée des tensions. Alors, ça se traduit par une montée de l'antisémitisme, une montée des racismes, une montée aussi du racisme, d'ailleurs, anti-blanc, ou même anti-français, dans le sens, quand on entend à l'école le sale français, des choses comme ça, qui sont courantes aujourd'hui, qui montrent quand même un énorme problème par rapport à l'assimilation. Donc, on est dans une nouvelle forme d'antisémitisme, puisque vous parlez de l'antisémitisme, je pense que c'est plus global que ça. Je pense que c'est une société multiculturelle qui devient de plus en plus multiconflictuelle avec importation, comme vous le dites, du conflit israélo-palestinien. Ça, c'est une évidence et c'est dramatique. Ça devrait rester une question de politique étrangère où la France a quelque chose à dire de fort, bien évidemment, mais ça doit rester une question de politique étrangère.
Par exemple, en Grande-Bretagne, c'était aussi le multiculturalisme. Enfin, nous, c'est pas le même modèle, mais enfin, voilà. Comment vous expliquez que ça se passe pas de la même manière en Grande-Bretagne et pourquoi il y a cette particularité française?
Je n'en vis pas le modèle britannique. Je pense que ça se passe pas si bien que ça non plus. Quand vous entendez, quand vous voyez que là-bas, librement, les fondamentalistes peuvent prêcher dans les parcs, dans les rues, etc., des horreurs. Bon, je veux dire, c'est pas du tout ce que je veux pour la France. Et justement, et surtout, je pense que c'est parce que ça correspond pas au modèle français.
Qui prêchons la laïcité.
Je pense qu'on peut pas comparer la laïcité avec les horreurs qu'on peut entendre dans la bouche des fondamentalistes islamistes. Bon, la laïcité, ça fait partie des valeurs de la République française. Mais je pense que ça ne correspond pas au modèle français. Le modèle français, c'était le modèle de la communauté nationale. Il y a une seule communauté, la communauté nationale. Il n'y a pas de communauté. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je me désole quand j'entends des responsables politiques au plus haut niveau. Manuel Valls a commencé par lui, mais c'est pareil à l'UMP, qui parle de communauté sans arrêt. Les communautés musulmanes, communautés juives, communautés chrétiennes, etc. Non, il y a des Français. et il y a une communauté nationale. Et je pense que les Français sont demandeurs de ce modèle-là. Alors ce modèle-là, il est possible comment? Bah déjà si on arrête l'immigration. Parce que moi, je suis désolé, on peut pas assimiler 200 000 nouveaux entrants chaque année, alors que chaque année, on sait qu'il y a 200 000 entrées légales depuis des années et des années, plus les clandestins, dans une situation de surchômage et de surpauvreté. Ça me semble complètement impossible et ça détruit peu à peu le modèle français, ça détruit peu à peu la République française.
Est-ce que le Front National, à travers les dérapages de son président d'honneur, n'a pas finalement contribué à décomplexer une certaine forme d'antisémitisme latente qui était bien présente en France? Est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité, vous collectivement au Front National?
Non, pas du tout, parce que le Front National a toujours, et je crois que c'est même dans ses statuts, lutté contre toutes les formes de racisme et l'antisémitisme donc.
Sur la Shoah, Jean-Marie Le Pen n'a jamais fait dérapage.
Ah, vous citez ce qu'il a dit en 87. Oui, bon, enfin, j'ai été interrogé mille fois là-dessus.
Il y en a eu plus d'un, hein. Il y a eu la Fournée l'année dernière.
Il a été condamné
à plusieurs reprises pour antisémitisme insidieux, pour négation de crimes contre l'humanité.
Oui, mais si vous voulez, aujourd'hui, la présidente, c'est Marine Le Pen.
Il est toujours président d'honneur, quand même.
Oui, Marine Le Pen a eu l'occasion de s'exprimer très clairement sur ces questions-là. Mais aujourd'hui, si vous voulez.
Elle, c'est elle, et lui, c'est lui.
Non, mais attendez, enfin, comme tout le monde, hein. Vous n'êtes personne d'autre. Bon.
Vous êtes Christophe Fourcade.
Moi, je suis Florian Philippot.
Quand Jean-Marie Le Pen prononçait ce mot, ce détail de l'histoire en parlant
des
chambres à gaz, comment vous aviez réagi?
J'avais 6 ans.
Vous aviez 6 ans.
Ouais, j'avais 6 ans,
je crois pas que j'étais si jeune, en fait.
Bah, si, oui. Mais après coup, aujourd'hui, quand vous vous dites.
Bah, moi, quand j'ai rejoint Marine Le Pen, elle avait levé l'hypothèque, puisqu'elle avait répondu 150 fois à cette question-là. Mais attendez, je crois que si vous pensez qu'aujourd'hui.
Personnes qui ont été exterminées dans la chambre à gaz. Vous, comment vous réagissez à cette phrase quand vous entendez Jean-Marie Le Pen qui dit c'est un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale? J'imagine que vous êtes scandalisé, non?
Ben oui, je suis bien sûr. Mais il l'a dit il y a
en 1987.
Il y a 28 ans. Ouais. Bon, d'accord. Déjà. Et 3 ans après, Jacques Chirac disait le bruit et l'odeur, etc. Je suis pas sûr que vous interrogez, vous poseriez la même question à un responsable UMP à ma place. Bon, sur les propos de Chirac de 90. Donc là, vous m'interrogez sur les propos de Le Pen en 87.
Oui, parce que Jean-Marie Le Pen.
Bah oui, je suis pas d'accord.
Jacques Chirac n'est pas président d'honneur de l'UMP aujourd'hui, alors que Jean-Marie Le Pen est président d'honneur du Front National aujourd'hui.
Il a été président de la République quand même, Jacques Chirac. Mais, si vous voulez, aujourd'hui, l'antisémitisme et la montée des racismes, c'est pas lié à ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen en 87. Et qui aujourd'hui lutte contre le fondamentalisme islamiste? Qui a alerté sur cette question-là? Qui était seul quand on parlait des prières de rue? Tout le monde nous est tombé dessus. Tout le monde est tombé sur Marine Le Pen quand elle a eu le courage de parler de cette question-là. Qui a fait un procès à notre affiche non à l'islamisme au régional 2010? Et on a quand même gagné, heureusement, en appel, mais c'était le parquet de Monsieur Sarkozy, à l'époque, qui avait fait un procès. Je veux dire, nous avons quand même alerté. Nous avons quand même proposé des solutions. On est les seuls, d'ailleurs, à avoir une approche globale du problème. À dire, c'est pas simplement par des mots et des slogans qu'on va lutter contre ces difficultés-là. C'est en allant au cœur du problème, qui est la question de l'immigration et la question du communautarisme. Donc, je veux dire, aujourd'hui, nous sommes une solution et certainement pas un problème.
Christophe Fourcade.
Considérez-vous aujourd'hui que nous sommes dans un état de guerre plus ou moins déclarée, plus ou moins larvée, et est-ce que nous allons vers un affrontement, un choc des civilisations, comme l'a dit Émeric Choprade, qui était chef de file de la délégation frontiste au Parlement européen?
Nous sommes en guerre parce que
votre acte, vos affiches sont quand même depuis les dernières régionales et là la nouvelle affiche sont quand même très
le péril islamiste.
Le péril islamiste.
Hein. Vous venez faire une affiche un truc là-dessus.
Les fondamentalistes islamistes que nous n'avons jamais confondus avec nos compatriotes musulmans qui eux posent aucun problème.
Mais est-ce qu'il y a un péril islamiste aujourd'hui en France?
On sort d'un attentat qui a fait 17 morts.
Quand vous faites un tract là-dessus, ça ne veut pas dire que vous surfez un petit peu sur ces attentats-là?
Alors je vais vous dire, les tracts dépendent de mes services. Vous croirez ou pas, mais le tract était fait bien avant l'attentat. Et alors, il a été effectivement adapté parce qu'il y a eu cet attentat, etc., mais il parlait des filières djihadistes. Parce que je vous signale que ce problème-là n'est pas né le 7 janvier. Mais on sort d'un attentat qui a tué 17 Français. Et on me demande s'il y a un péril islamiste. Ben, c'est une évidence. C'est une évidence absolue. Et avant ça, il y a eu Mohamed Merah, il y a eu toutes les Europes, il y a tout ce que vivent les Français en permanence, la pression sur certaines filles qui sont obligées de se voiler dans les quartiers, qu'il y a une autre loi que la loi de la République qui s'applique. Il y a la reculage de la laïcité permanente dans les écoles, dans les salles de sport, dans les entreprises.
Pas sur la peur des gens.
Non, la peur des gens, elle s'installe et elle se développe quand ils voient qu'ils ont des gouvernants qui ne font rien. C'est ça qui fait peur aux gens. Ce qui fait peur aux gens, c'est d'entendre du blabla, mais rien pour les protéger, rien pour arranger la situation. solution. Ce qui rassure les gens, c'est qu'on prenne le problème à bras le corps, qu'on ose le nommer d'abord, et ensuite qu'on apporte des solutions. C'est le rôle du Front National qui apporte des solutions depuis bien longtemps et qui a une approche globale, encore une fois, du problème. Parce que dans le problème, il y a aussi la question des frontières. Si on pose pas la question de Schengen et des frontières, on est à côté de la plaque. Parce que c'est bien beau de lutter contre les réseaux à l'intérieur, déjà sans aucun moyen. Hein.
Enfin, l'ennemi, il est à l'intérieur.
Mais si n'importe qui, n'importe quel djihadiste peut revenir en France sans qu'on le sache, parce qu'il n'y a plus de contrôle aux frontières, il n'y a plus de frontières parce qu'il y a Schengen, alors ça sera complètement inutile. Bon. Et il faut avoir une approche globale du problème, parce que sinon on est... Alors on fait si, comme Nicolas Sarkozy, on vous explique qu'il faut faire des heures supplémentaires dans la police et que ça réglera tout, alors qu'ils ont déjà le plus grand mal à se faire payer leurs heures supplémentaires aujourd'hui, qu'ils n'ont plus le droit de prendre un seul jour de congé. Voilà, je pense que là on était en dessous de tout. On a eu le droit à un concours de mesurettes quand même entre Valls, Hollande et Sarkozy ces derniers temps, qui était ridicule.
On va revenir sur les mesures, mais juste sur la question de Christophe Forcari, sur les propos d'Émeric Chopin, qui parle de la religion musulmane, qui, je cite, constituerait une menace très grave pour le pays, qui parle d'une cinquième colonie islamiste en France. Ces propos-là, Émeric Chopin est toujours au Front National aujourd'hui, vous êtes d'accord?
Oui, mais c'est bien pour cela qu'il a été rétrogradé, qu'il n'est plus le chef
mais
de délégation.
Mais pourquoi vous ne partagez pas ces propos?
Mais parce
d'après
que
tout ce que vous venez d'expliquer, vous nous dites
qu'il y a un
danger.
Il y avait un problème de méthode. Enfin, on peut y revenir. On l'a fait 100 fois aussi, mais il y avait un problème de méthode. Bon, quand
mais
on
passons
est
à la méthode.
Conseiller,
sur le fond.
Non, mais c'est important. Quand on est conseiller, chez nous, c'est pas la chienlit. Il y a une discipline à respecter, et il y a une seule voix qui s'exprime. C'est la ligne du Front National, fixée par sa présidente. Et entourée, les débats ont lieu en interne, mais en externe, il y a une voix. C'est celle de Marine Le Pen et du Front National, et c'est mieux, et c'est bien mieux ainsi. C'est le respect qu'on doit aux Français. Et puis, si vous voulez, sur le fond, nous ne voulons pas le choc des civilisations, nous faisons tout pour le combattre et pour l'éviter. Et la responsabilité du politique, c'est d'éviter le choc des civilisations. Ben, ça commence déjà en France par arrêter de parler de communauté sans arrêt, comme le font Valls et les autres.
Et en même temps, vous diffusez des tracts qui sont quand même avec des hommes en armes, attention au fondamentalisme islamique.
Et vous croyez que nos compatriotes musulmans se reconnaissent là-dedans? Mais non, parce que eux, ils savent très bien qu'on fait pas l'amalgame.
Marine Le Pen fait un lien entre immigration et terrorisme.
Oui. Vous, enfin, écoutez, oui.
Oui, bon. Ben,
enfin, bon, d'abord, Monsieur Forcari, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire que en nommant l'islamisme et le fondamentalisme, pour vous, on fait un amalgame. Mais donc, en réalité, c'est vous qui faites un amalgame.
Bah si, de fait. Non, c'est vous.
Bah non, c'est vous. Parce que si vous considérez...
J'ai pas vu de drapeau du Qatar ou de l'Arabie Saoudite ou d'un autre pays disant ces gens-là sont dangereux, ils sont yéménites, etc.
Mais si vous, si en nommant les fondamentalistes, les terroristes, en les représentant, vous considérez qu'on parle des millions de musulmans français, des Français de confession musulmane qui ont aucun problème, qui vivent comme les autres, qui travaillent comme les autres. Alors, finalement, c'est vous qui faites un amalgame, c'est pas moi. Parce que eux, ils savent très bien. Je veux dire, d'ailleurs, on a de plus en plus de Français de confession musulmane auprès de nous et derrière nous, parce que eux, ils savent très bien qu'ils ont besoin aussi qu'on lutte contre les franges extrémistes, parce que sinon, un jour, se fera cet amalgame dans la population française, effectivement. Ça, c'est une évidence.
Et en faisant le lien, par contre, entre immigration et terrorisme, là, vous faites,
va falloir qu'on m'explique à ce moment-là comment est né un beau jour en France l'islamisme et d'où ça vient. Il n'est pas tombé du ciel comme ça un beau jour. Tout cela est évidemment lié à une politique d'immigration anarchique depuis des années et des années, à un code de la nationalité qui a fait qu'on a fabriqué des Français qui, manifestement, c'est le moins qu'on puisse dire, se sentaient pas Français dans leur cœur et ni dans leur comportement, qui ont fait des horreurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on réclame la déchéance de la nationalité française pour les djihadistes binationaux, parce qu'on n'est pas digne d'être français quand on fait des horreurs pareil en Syrie et en Irak. Donc il y a un lien absolument évident.
Et le Conseil constitutionnel d'ailleurs a donné son accord pour déchoir de sa nationalité un djihadiste.
Je crois pour le 8e cas depuis 1973, si je ne me trompe pas. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut une loi qui fasse en sorte qu'on crée cette déchéance de la nationalité pour les djihadistes binationaux, et même qu'on aille plus loin sur la déchéance de la nationalité pour les criminels qui ont eu la nationalité, par exemple, depuis moins de 10 ans ou moins de 15 ans, comme c'est aujourd'hui dans la loi.
Et a priori, cette mesure est plutôt plébiscitée par les Français. Il y a eu un sondage sur la déchéance de nationalité, ouais. 80% des Français étaient plutôt d'accord.
Nous, on la propose depuis longtemps. Enfin, pas depuis le 7 janvier, comme l'UMP, qui, comme d'habitude, est dans l'enfumage électoraliste, qui au pouvoir ne fait strictement rien, supprime des forces de l'ordre, supprime des militaires, fait Schengen, supprime la double peine, comme l'a fait Sarkozy, et qui, dans les élections, essaie de copier un peu le Front National dans les discours. Bon, je crois que les Français ne sont plus dupes de tout cela.
Allez, il nous reste 5 minutes dans cette émission. Florian Philippot, le vice-président du Front National et notre invité ce soir dans Mardi Politique. On parlait de l'antisémitisme qui se développe, le racisme anti-musulman également. On le voit notamment en Allemagne avec ce mouvement Pegida qui rassemble régulièrement des milliers de manifestants à Dresde. Comment percevez-vous l'éruption de ce mouvement Pegida ?
Bah, moi, je vois comme le symptôme d'une question qui existe, hein, qui est latente, bon, qui existe dans tous les pays européens maintenant, aujourd'hui. Alors, ça prend cette forme en Allemagne parce qu'ils n'ont pas vraiment d'offre politique. Il n'y a pas de parti véritablement qui lutte contre l'immigration en Allemagne. Bah, peut-être de plus en plus l'AFD, manifestement, qui essaie aussi de se positionner sur cette question-là.
Au sein de ce mouvement, il y avait quand même pas mal de néo-nazis, a priori.
Oui, bah voilà. Donc, je crois que ce mouvement-là, je ne sais pas ce qu'il deviendra. Mais moi, le mouvement, ça, c'est leur, ils décident ce qu'ils veulent faire, c'est leur problème. Et qu'il y ait des franges extrémistes dans ce mouvement, probablement. Il y a aussi probablement des milliers de braves gens qui sont sincères dans leurs convictions et qui n'ont pas envie de voir leur identité nationale être mise au placard ou à l'égout. Je crois qu'en France, ça n'est pas une nécessité et ça n'existe pas parce qu'il y a un mouvement patriote, un grand mouvement patriote, le Front National de Rassemblement Bleu Marine, qui veut l'arrêt de l'immigration et la défense de notre souveraineté comme de notre identité nationale.
Et pourtant, l'extrême droite radicale tente d'importer ce mouvement en France. Je ne sais pas si vous avez vu, Renaud Camus a tenté de faire importer ce mouvement Pegida en France pour l'instant.
Non, j'ai même pas vu. Vous voyez,
sans succès pour l'instant. Vous y seriez favorable?
Ah non, je pense que ça sert strictement à rien. Enfin, s'ils veulent manifester, ils manifestent. Moi, je suis pour la liberté de manifestation.
Contrairement au président d'honneur du FN, vous n'êtes pas Charlie Martel.
Non, je suis pas Charlie Martel, mais c'est pas non plus hyper choquant. Enfin, je veux dire, faut arrêter de se choquer de tout. Ce qui est choquant, c'est quand même 17 morts français et les politiques qui sont pas mises en place. C'est ça le vrai problème.
Mais est-ce que là encore, est-ce que ça gêne pas aux entournures du discours policé que vous-même ou Marine Le Pen présentez, que le président du Front National, bien campé sur ses deux jambes, dise « moi, je suis pas Charlie, je suis Charlie Martel ».
Bah, c'est sa
contrairement
position.
À l'image que vous essayez de donner, est-ce que c'est pas une fausse note?
Bah, c'est la position de Jean-Marie Le Pen, mais c'est pas la position du Front National qui est définie par sa présidente.
Donc, est-ce que Jean-Marie Le Pen, pour vous, est un has-been qui n'a plus rien à voir au sein du Front National?
Mais non, c'est pas un has-been. Enfin, je dirais jamais ça. Je me permettrais jamais de dire ça. De quelqu'un qui a fondé le mouvement dont je suis le vice-président.
Vous avez dit qu'il était inoffensif.
Voilà, pour tout le monde.
Mais parce que je répondais. Bah, attendez, je répondais à une question où on me disait, on venait de sortir d'un attentat terrible et on parle de Jean-Marie Le Pen. Je disais, écoutez, il faut revenir sur Terre. Le problème aujourd'hui en France, c'est pas Jean-Marie Le Pen. C'est pas Jean-Marie Le Pen qui a pris sa Kalachnikov pour aller tuer 17 personnes à l'hypercachère et chez Charlie Hebdo. C'est pas Jean-Marie Le Pen qui fait. Bon, voilà, c'est ça que je disais.
On a le sentiment parfois que s'il peut gêner sa fille, notamment en mettant de son côté Marion Maréchal Le Pen pour embêter Tata, on a l'impression que c'est un peu. Est-ce que je me trompe ou pas?
Non, je crois que vous vous trompez. Jean-Marie Le Pen, il a son caractère, c'est un libre penseur, un libre diseur, et il changera pas.
Ça
fait son charme aussi. Voilà.
Ça serait peut-être mieux s'il pensait librement, mais sans l'exprimer.
Mais
quoi.
Non, je veux dire, mais Jean-Marie Le Pen, il est comme ça, et les Français savent, mais les Français savent aussi que le Front National, c'est Marine Le Pen qui le dirige et que c'est elle la candidate à la présidentielle. Et tout le monde, Jean-Marie, Marion, Louis, Steve, qui reçoit ce soir le prix de l'élu local, meilleur élu local. Je sais que Claude Bartolone, en grand républicain, le boycott, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, ce qui est quand même extraordinaire. Alors qu'il y a deux semaines, on appelait à l'unité nationale, Monsieur Bartolone boycotte ce prix ce soir. Ça en dit long sur la sincérité de ces bonhommes. Mais voilà, tout le monde est derrière Marine Le Pen pour la faire entrer à l'Élysée en 2017.
Vous avez rien à voir avec Jean-Marie Le Pen, vous, Florian Philippot? Et génération, et de là où vous
mais
venez,
on n'a pas du tout le même âge, on n'est pas des mêmes traditions politiques, etc. Mais on est tous les deux, on aime notre pays, mais comme l'immense majorité des Français d'ailleurs.
Qu'est-ce que vous avez en commun avec Jean-Marie Le Pen?
Mais je pense que ce genre de question n'a pas beaucoup de sens, mais on est contre l'immigration, on défend la souveraineté nationale, on est pour le patriotisme. Mais ça, c'est le point commun de tous les adhérents, tous les dirigeants, tous les cadres, les élus du Front National. Et bien heureusement, ça dépasse largement le Front National. Je pense même que ça concerne une large majorité de Français qui aiment leur pays et qui aimeraient qu'on en soit un peu plus fiers dans la classe politique française, qu'on cesse la repentance, qu'on cesse de l'abaisser et qu'on aime son pays, qu'on défende sa liberté de peuple et de nation. C'est ça c'est très important, ces points communs.
Merci Florian Philippot d'avoir
Merci
participé à Mardi Politique. Merci à Mathias Colchani qui était ce soir à la réalisation. Merci également à Audrey Yatoni. Rendez-vous la semaine prochaine 19h10 sur les antennes d'RFI avec à votre place Florian Philippot. Jean-Christophe Combadélis, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonne semaine à tous. Merci.